Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, en ce mercredi matin, nous avons évoqué Jean Pia, Marceline Loridan-Ivens, décédée hier soir, et nous apprenons aussi la mort de Paul Virilio, urbaniste, philosophe, il avait 86 ans. La presse lui rend hommage en publiant des entretiens réalisés il y a quelques années, Jacques.
Oui, quelques jours avant son décès, il travaillait encore avec Jacques Arnoux, l'historien des sciences et théologien, en vue de la parution d'un ouvrage, et il songeait avec son ancien élève, l'architecte Alaouardé, à une nouvelle exposition à la Fondation Cartier, a confié sa fille Sophie Virilio. Lemonde.fr résume ainsi son parcours, ponctué de nombreux livres. Le philosophe qui avait entrepris dans les années 1970 une réflexion centrée sur la vitesse, qu'il considérait comme un facteur essentiel d'organisation sociale et de contrôle politique, avait fondé au début des années 1960 le groupe Architecture Principe avec Claude Parent et publié le manifeste sur la fonction oblique qui marque aura un tournant dans l'histoire de l'architecture française contemporaine. On peut retrouver sur le site de l'Express un entretien accordé au magazine Lire en 1999 à l'occasion de la parution de son livre Stratégie de la déception. Il y évoque, après l'écologie verte, ce qu'il appelle l'écologie grise, je cite, celle qui devra tenir compte au XXIe siècle non seulement de la pollution de l'air, de l'eau et de la flore et de la faune, mais encore de la pollution des distances, des délais, autrement dit cette grandeur nature d'un écosystème tout aussi indispensable à la vie que les nourritures terrestres. Car la mondialisation se traduit également par la contraction tellurique des distances de temps, condamnée à l'incarcération géophysique par la compression temporelle des délais du transport et des transmissions instantanées, nous devons plus que jamais méditer la recommandation du sage instituteur de Pagnol. Mes enfants, ne courez pas, la cour de récréation vous paraîtra plus grande. Écologie grise comme matière grise, cette intelligence collective pour analyser, comprendre, anticiper la catastrophe du progrès, qu'il appelle de ses voeux dans un entretien de 2009, que republie le site de La Croix. Pour lui, la tyrannie du temps réel est une vraie menace. Autrefois, le prix du blé changeait 10 à 15 fois par an. Aujourd'hui, il change 10 fois par jour. Et les crises économiques deviennent systémiques du fait de l'interaction instantanée des bourses. Depuis la chute du mur de Berlin, ajoute le philosophe, nous sommes entrés dans la chronopolitique. Désormais, le temps réel l'emporte sur l'espace réel. Contrairement à ce que pense Fukuyama, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais la fin de la géographie. Le monde est trop petit pour la puissance du progrès technique, de l'information et des transports. La logique de la grande distribution, flux tendu, stock zéro, résume tout, les mouvements de population comme le krach boursier. Paul Virilio prévoyait que les migrations économiques, écologiques et politiques vont déplacer près d'un milliard de personnes d'ici à 2040. Un phénomène qui remet en cause la notion de sédentarité. La géopolitique était liée à une localisation. L'exode, les menaces de tous ordres, l'externalisation amènent les populations à fuir en masse. Que se passe-t-il quand le sédentaire est partout chez lui et le nomade, celui qui n'est jamais nulle part chez lui? Dans un entretien de 2010 à Libération, lors de la parution de son livre « L'administration de la peur », publié chez Textuel, le philosophe développe un autre aspect de la tyrannie du temps réel. Nous vivons une synchronisation de l'émotion, une mondialisation des affects. Au même moment, n'importe où sur la planète, chacun peut ressentir la même terreur, la même inquiétude pour l'avenir ou éprouver la même panique, une situation qui n'est pas sans conséquences. La communauté d'émotions domine désormais les communautés d'intérêts des classes sociales qui définissaient la gauche et la droite en politique, par exemple. Nos sociétés vivaient sur une communauté d'intérêts, elles vivent désormais un communisme des affects. La mutation est analysée dans l'ouvrage au titre explicite, l'administration de la peur. La peur a certes toujours existé, écrit Paul Virilio, mais la voici aujourd'hui administrée, orchestrée, politisée. Ce sentiment est dû à une hypermodernité qui abolit les distances, pollue l'espace et plonge les sujets connectés à l'actualité dans un live permanent. Paradoxalement, ce monde du mouvement permanent est aussi celui des communautarismes et du repli sur soi, effet collatéraux d'un monde rendu inhabitable par cette constante compression du temps. À cela s'ajoute que les États sont tentés de faire de la peur, de son orchestration, de sa gestion, une politique. La mondialisation ayant progressivement renié les prérogatives traditionnelles des États, celles de l'État-providence notamment, il leur reste à convaincre les citoyens qu'ils peuvent assurer leur sécurité corporelle. La double idéologie sanitaire et sécuritaire peut se mettre en place, faisant peser de réelles menaces sur la démocratie.